Comment peindre la pensée et pourquoi ? Telle est la question à laquelle l'exposition proposée par Alain Tapier répond en proposant 50 portraits de philosophes, de saints, d'ermites, de sibylles, choisis parmi les grands maîtres du XVIIe siècle. Diego Velázquez, Luca Giordano, Giuseppe de Ribera, entre l'Espagne et l'Italie, mais aussi des représentants de l'école caravagiste d'Utrecht, des peintres hollandais qui se sont inspirés de la Renaissance italienne, comme Hendrik Terbruggen ou Johannes Morelse. Sur le thème de la figure du philosophe au siècle d'or, l'exposition relève le défi de montrer l'irreprésentable, l'invisible, telle l'activité méditative, la réflexion philosophique, le sentiment de la foi ou la présence du divin. La présence charnelle, rieuse et jubilatoire de Démocrite voisine avec les portraits plus graves de Platon et de Descartes, avec les allégories de la logique et avec ceux plus contemplatifs de Saint Thomas, Saint Paul ou de Marie l'Égyptienne. Au cœur de ce dispositif sériel, l'installation de l'artiste vidéaste américain Bill Viola entraîne le visiteur dans un espace intime de méditation. La pièce pour Saint Jean de la Croix célèbre le cantique spirituel et le poème Nuit obscure, inspiré au poète mystique espagnol alors qu'il était emprisonné à Tolède, dans une cellule minuscule et sordide, soumis à la souffrance et à la plus intense solitude. Le thème de cette exposition, tel que vous l'avez conçu à un papier, est comment peindre la pensée et pourquoi, reprise également par Pascal Quignard, une forme de comment figurer la pensée. Alors n'y a-t-il pas un défi à vouloir représenter précisément l'irreprésentable ? Alors nous sommes ici devant une galerie de 59 portraits de la période du siècle d'or, des philosophes, des saints, des ermites, et au centre de laquelle se trouve donc l'installation lumineuse et sonore de Bill Viola, qui figure plutôt là, je dirais, un espace de méditation sans penseur, alors que les portraits précisément qui l'entourent représenteraient plutôt des penseurs sans espace, peut-être. Moi, à une exception près que nous verrons tout à l'heure. Alors, est-ce que cette approche dialectique avec Bill Viola, donc artiste contemporain, nous permet précisément de comprendre, de relire les tableaux que vous avez choisis pour cette exposition dans cette période où l'idéologie aussi catholique conquérante est à son apogée?
La représentation de la pensée est le fait des peintres. Elle n'est pas une idée venue comme ça récemment, quoique l'idée est peut-être intéressante puisque elle pose la question de l'abstraction. Pourquoi abstraire le sujet ? Pourquoi ne pas l'abstraire ? Mais voilà, j'ouvre la question et je la referme. Et si l'on avait peut-être fait cette exposition il y a 50 ans, la querelle entre abstraction et figuration en eût été peut-être différente. Alors, donc, les peintres se sont occupés de la représentation de la pensée, c'est-à-dire de la représentation de l'invisible, parce que c'est peut-être un des sujets fondamentaux pour eux, lorsqu'ils sont confrontés à l'acte de méditation, lorsqu'ils sont confrontés à l'acte de vision, lorsqu'ils sont confrontés à l'expression du sentiment de la foi, lorsqu'ils sont confrontés à la réflexion morale, et à chaque fois, il y a un temps, un vide, un silence, un invisible précisément, et c'est autour de cet invisible que tourne le peintre. Thérèse d'Avila avait déjà dit « Mes sœurs, voyez cette boîte en or, elle est belle et merveilleuse, vous pouvez l'admirer, mais sachez que ce que vous devez voir, que vous ne verrez jamais, c'est le diamant au centre qui est l'invisible. C'est donc le Dieu caché. » Et la pensée fonctionne comme un Dieu caché. Et ce qui se produit dans le siècle d'or est cette ouverture à la philosophie antique, une ouverture naturelle pour les Espagnols, parce que Dieu sait si la culture antique était importante chez les Espagnols, on l'oublie toujours, pas seulement l'Italie. Et cette ouverture à la philosophie antique qui vient comme accompagner, étayer, nourrir, diversifier la contre-réforme, la pensée de la contre-réforme en marche, avec un point commun qui est, je dirais, l'anthropocentrisme. L'homme est définitivement au centre de la méditation spirituelle, il est définitivement au centre des préoccupations, et il est, je dirais, facteur, fabricant de théologie. J'ai chaque fois d'ailleurs employé le mot « acte », car tout cela est acte, tout cela est mouvement, et tout cela est physique. La pensée s'incarne, elle s'incarne à travers des figures en effet de philosophes, de saints, de vagabonds, mais ces figures sont mutantes, elles passent l'une à l'autre. Vous avez Héraclite, mais c'est peut-être Saint Jérôme qui est là, il suffit de changer les attributs. Et vous avez dans cette philosophie mutante un champ de méditation, un champ ouvert où ne sont indiquées seulement que quelques marques, quelques stimuli peut-être. Marcille Fissin disait, lui aussi il y avait Héraclite et Démocrite dans son gymnasium. Marcille Fissin disait, il fallait savoir que dans le fond ces tableaux participaient à l'art de mémoire. Vous connaissez un ou deux moments de la chaîne et ils vous permettent de façon mémorielle de reconstituer à partir de quelques bribes de savoir une sensation et une connaissance, et vous vous mettez à penser à partir de ce miroir que représente le portrait de la pensée. Alors ce ne sont pas les portraits de penseurs au sens où là, vous sentirez Socrate, là, vous sentirez, oui, bien sûr, vous les sentirez, mais vous n'aurez pas d'énoncé. D'ailleurs, toutes ces philosophies qui sont là sont des philosophies fragmentaires. Ce sont des bribes. Ce sont des philosophies qui passent par les livres d'emblèmes, qui passent par les recueils d'iconologie. Ce sont des aides-mémoire et des aides à la représentation. Et un proverbe, une maxime vient à point nommé pour vous interpeller et d'une certaine manière pour vous aider à vivre. C'est donc le sens et la fonction de cette peinture. Elle est éminemment populaire, elle est éminemment diffusée, et si vous ne passez pas par le tableau, parce que vous ne passez pas par là, vous passez dans la rue, vous allez trouver une petite scène sur le coin, dans un choral, et vous allez voir presque le même vagabond, presque le même homme libre, presque le même Diogène, vous interpeller, vous appeler, vous énoncer quelque chose. Et si vous ne le faites pas là, vous le ferez à travers une réunion poétique, et où vous verrez là qu'en effet, à travers une réunion poétique, eh bien, il y a les mêmes énoncés qui passent. Vous voyez, c'est donc une culture extraordinairement diffuse, qui passe, qui joue de plusieurs supports, dont la peinture est évidemment un support privilégié, parce que d'une certaine manière, c'est le plus ouvert.
Le poète et mystique espagnol, Saint Jean de la Croix, fut emprisonné par l'autorité religieuse pendant 9 mois, en 1577. Sa cellule n'avait pas de fenêtre, et il ne pouvait s'y tenir debout. Il fut torturé régulièrement. Durant cette période, Saint Jean écrivit la plupart de ses poèmes connus, qui parle d'amour extatique, de traversée dans la nuit obscure et de survol au-dessus des murs de la ville et des montagnes. Bill Bayola.
En mi pecho florido que entero para el sol se guardaba, allí quedó dormido y yo lo regalaba, y el ventaje de cedro se aireaba. Y el aire de dormir agua en este
caso. Venons, si vous voulez bien, à la question de celle qui était autour de Bill Viola. En quoi est-ce que l'installation, par son contenu, mais aussi peut-être par sa forme, la vidéo, en
pourquoi cette installation de Vigola contemporaine peut-elle nous aider à éclairer ou à lire davantage ces tableaux en tant qu'espace de méditation peut-être différemment représenté, bien évidemment.
Alors, en effet, Bill Viola a parfaitement compris les fondements mêmes. Vous comprendrez que dans ces portraits de la pensée ne sont pas nés de rien. Dans la peinture espagnole qui se diffuse à Naples, qui se retrouve à Rome, qui fait venir les peintres d'Utrecht, les Benswegels, les bandes d'oiseaux, et vous les trouvez tous là, dans cet arc qui part de Madrid et qui va d'une certaine manière jusqu'à Utrecht. Et si vous les trouvez là, c'est parce que il y a eu précédemment des moments qui ont en quelque sorte forgé ce rapport à l'image, ce rapport à l'invisible. Je citerai particulièrement Thérèse d'Avila, c'est déjà fait, et aussi Jean de la Croix. Jean de la Croix, à un moment donné, emprisonné dans une petite cellule au bord du Tage, écrit frénétiquement ses poèmes, parmi lesquels La Noche Oscura, et là, il déploie dans ses poèmes, par cette espèce de contrainte qui est en même temps une force physique, une sorte de puissance volubile, des poèmes d'amour qui sont presque panthéistes, vont vers Dieu, vont vers les hommes, etc. Et il y a un invisible du corps, une énergie formidable qui va se propager comme une onde fulgurante. Et ce caractère fulgurant rejoint les bruits, les rumeurs du Tage qui n'est pas très loin. Et Bill Viola en fait tout simplement une merveilleuse lecture. Il fait œuvre d'historien. C'est un exemple merveilleux pour l'art contemporain puisque c'est un homme qui plastiquement puise dans le savoir ancien, il puise une donnée fondamentale, utile pour la compréhension du temps et de l'histoire, mais utile aussi pour aujourd'hui. Utile pour aujourd'hui car la figure en effet n'est pas présente, mais elle est là, elle est dans toute sa dimension charnelle. Et elle montre comment la poésie est prescriptrice. C'est la poésie qui parle. Il arrivera un moment donné avec Descartes où la poésie ne parlera plus, d'autres choses parleront. Mais là, la poésie parle. Ces philosophes sont en même temps des poètes. Pétrarque est présent à travers ce merveilleux vers « Vae nuda philosophia ». Dante est présent, qui lui-même est le premier à établir, je dirais, ces grandes figures tutélaires, Anaxagore, Socrate, Zénon, Cratès, etc. C'est dans l'enfer de Dante, vous voyez, et les peintres ont repris, en quelque sorte, à la fois cette vision mystique de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila, en même temps que cette grande culture de la poésie. Et c'est comme ça que l'on en arrive là, c'est-à-dire que l'invisible n'est pas seulement l'invisible du divin, c'est aussi un invisible caché au cœur de l'homme. Et donc nous sommes là dans cet anthropocentrisme que la culture. Ce qui frappe lorsque l'on voit ces tableaux, c'est que la pensée est chère. Elle est chère à travers, bien sûr, le corps. Le corps et bien sûr le cœur de la peinture, mais vous comprendrez qu'il fait corps avec ce fond noir, dont il surgit par éclat, jeu de lumière, parce que l'ensemble forme une sorte de huis clos de théâtre. Et c'est donc un théâtre de la pensée et en même temps un lieu de pensée. Je vois là derrière se profiler les jésuites qui ont su indiquer qu'il faut avant tout dans la vision composer le lieu. Et ce sont des lieux qui sont composés. Oh, la composition est très simple. Ce corps est là, il se donne, mais très souvent en décalage par rapport à ce que l'on attend de lui. Il n'est pas toujours dans les gestes attendus par rapport aux sentiments dominants de doute, d'incertitude, de double vie ou de double voix. il est pluriel, ce corps. Et il laisse venir et il laisse passer des expressions qui ne vont pas figer ou fixer le sens. Tantôt plus enfermé, plus intérieur, dans une peinture, je dirais, proche de celle de Velázquez ou du jeune Ribera, tantôt plus ouverte, plus aiguë, plus pointue, dans une peinture plus proche de celle ou inspirée, disons, par le Caravage, ou du celle des Caravagesques, ou très quoi en particulier. Et dans ce théâtre, tous les acteurs sont comme, j'oserais dire, à égalité. N'est-ce pas tel accent sur le front qui devient la chose peut-être la plus vue, à moins que ce ne soit ce dialogue entre l'accent sur le front et les mains, à moins que ce ne soit le dialogue entre les mains et l'épaule nue, à moins que ce ne soit encore une fois un dialogue entre une autre partie de vêtement ou un attribut. Il y a donc une sorte de polysémie, de circulation du sens possible dans une égalité de traitement de tout ce qui constitue le tableau, c'est-à-dire expression, attribut, attitude, geste, vêtements, corps, etc. Voilà. Donc, bien sûr, il y a Adéo, c'est peut-être plus Saint-Jérôme. Bien sûr, il peut y avoir des bas, des intériorités profondes, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais dans le fond, eh bien, il y a toujours comme une sorte de fuite. De fuite, et cette fuite est bien souvent comme une percée. Ses regards, à un moment donné, qu'ils soient saisis de façon frontale ou pas, vous percent. Et alors, l'interlocution est bien souvent frontale, en effet. Elle vous regarde, elle nous regarde. Ce sont nos miroirs, ce sont nos pages blanches que nous devons écrire. Mais quelquefois aussi, je dirais, le dialogue ou la discussion est latérale. Car Héraclite, en effet, va discuter avec Démocrite, mais qui sait si Saint Jérôme ne va pas discuter lui aussi avec Démocrite, quitte à se substituer à lui? Qui sait si Saint Pierre pénitent ne va pas dialoguer à un moment donné avec Saint Thomas? Vous voyez, les peintres ont saisi ceux qui des apôtres, qui des philosophes, qui des pères de l'Église sont ceux qui sont dans le passage, dans la conversion, dans le doute aussi. Et à chaque fois, chaque tableau, comme l'ensemble des tableaux, constitue comme des chemins de vie. Alors, vous aurez compris que si Descartes est l'incarnation de la pensée, le tableau ou sa représentation ne l'est surtout pas. Ce n'est plus qu'un timbre-poste, ce n'est plus qu'une indication, ce n'est plus qu'un signe d'identité, qu'une carte de visite. Jean-Baptiste de Vinix, excellent portraitiste par ailleurs, nous dit, voilà, c'est Descartes, c'est lui, point. Descartes a bien compris ce rôle presque psychologique qu'on lui fait donner, et c'est pour la première fois que la psychologie apparaît avec la raison, et il joue d'une dernière ambiguïté allégorique. Mais c'est fini, l'allégorie. En effet, vous avez raison. La dernière ambiguïté est celle de ce qui est écrit sur le livre qu'il tient la main, « Mundus est fabula », le monde est fable. Alors, le dit-il pour ce monde qu'il quitte, qu'il va désormais raisonner, ou le dit-il comme si ce qu'il allait mettre en place comme forme raisonnée de pensée pouvait encore aussi se lire comme une fable? Ça, c'est une merveilleuse énigme. Et il y a une deuxième fin dans l'exposition. Elle concerne un tableau, un Saint Jérôme de Carlone, un artiste génois. Nous sommes proches de la fin du XVIIe siècle. Et ce Carlone nous envoie un immense Saint Jérôme, une grande figure dégingandée, élégante, un vieillard magnifique, les yeux levés au ciel, une espèce de, presque une sorte de Gandin de la méditation comme ça, d'un maniérisme sublime. C'est fini, cette belle incarnation, cette belle relation entre la pensée et la chair, c'est fini. Nous sommes revenus dans la manière et dans le style. Et vous voyez bien comment la philosophie, à travers l'identité féminine, ou l'identité à travers la philosophie, peut être extrêmement présente. A-t-elle donné lieu à des représentations picturales ? Moins peut-être que des vocations poétiques. La poésie, figure laurée, est représentée ici par l'autoportrait de Salvator Rosa. Merveilleux autoportrait, on dirait, on sent pointer de la croix derrière ce tableau. Mais une figure laurée évoquant la poésie eût trouvé toute sa place. Les civils sont là, il y en a une, il aurait pu y en avoir quatre ou cinq. Marie l'Égyptienne est là, mais Marie-Madeleine aussi a sa place, mais peut-être pas dans ces séries construites par Ribera en particulier, qui fondent les séries en expansion données par Luca Giordano, tandis que Velázquez lui-même a donné des figures plus séparées. Alors cette exposition joue à la fois de la série, deux personnages, quatre, six, ou au contraire, je crois qu'il n'y a jamais eu 12 apôtres dans l'œuvre de Velázquez. Il a pris saint Thomas, il a dû prendre deux ou trois autres, mais précisément il s'est référé à ses penseurs de la dualité. Et donc, ce sont malheureusement les aléas des expositions, des prêts, de la disponibilité des œuvres, de la Sibylle de Velázquez, de la poésie d'un autre Salvator Rosa, une merveilleuse que nous avons failli avoir et ne pas avoir parce qu'elle est aux États-Unis, qui ont fait que cette représentation féminine est insuffisante et que nous n'atteignons pas les quotas.
Avec certains de ces tableaux, nous voyons là des emblèmes, des allégories de la pensée, en particulier par exemple avec l'art égyptienne, le crâne, l'humanité. On peut penser que cette exposition peut-être est le prolongement aussi de l'exposition que vous aviez organisée à Caen sur les vanités dans la peinture du XVIIe siècle.
Oui, et que j'ai fait une autre exposition chez la Fondation Pierre Berger l'année dernière, sur le même sujet, où il y avait aussi des pièces contemporaines. C'est une manière de montrer qu'en effet les sujets se suivent, s'enchaînent et s'accompagnent. Il y a une formidable unité dans cette production de la peinture. Quand Démocrite évoque la vanité du monde, il ne le dit pas avec un crâne, il le dit avec un geste de dérision à l'adresse du monde. C'est l'idée générale et celle que le stoïcisme porte en lui, dans toutes ses différences, c'est celle qu'une richesse intérieure s'accommode très bien d'une pauvreté extérieure. Et que ce rapport entre richesse intérieure et pauvreté extérieure est facteur de liberté. C'est la formidable relation, c'est la formidable instruction de ces tableaux. Et c'est finalement ce qui se dit à chaque fois et à chaque page. Alors évidemment, les emblèmes, quelquefois, vont courir avec une force de conviction telle qu'on va ressentir l'emblème. Et au contraire, quelquefois, l'emblème se fait discret. Il se fait juste, on pointe le sens, on dirige légèrement le sens et on laisse l'acteur libre, vous voyez. Et dans cette liberté, eh bien, s'engouffre la pluralité des sens. Il y a en effet, dans la peinture de Ribera, de Velázquez, suivie par les merveilleuses et héroïques propositions de Luca Giordano, il y a en effet une sorte de véritable continuité, c'est le même théâtre. À certains moments, quelques variantes s'installent. Et ici, chez Ribera, et cela dépend aussi peut-être de la commande ou du lieu pour lequel l'exposition a été faite, eh bien, l'invention du lieu, la composition du lieu va intégrer, vous remarquerez que ce qui est derrière est pratiquement l'équivalent de ce qui est devant. J'entends par là que le rocher est chair, que le vêtement est rocher, et qu'il y a une formidable unité, unité, même si une percée, une avancée, etc., nous sommes pratiquement dans la même substance. Ces figures féminines ont tendance à ne pas nous regarder, d'ailleurs, hein, et peut-être il est mieux qu'elles ne nous regardent pas. Sinon, elles pourraient jeter le trouble sur le sens véritable de leurs propos. Regardez comment Marie-Madeleine aussi bien souvent détourne le regard. Rarement, elle nous regarde en face. Eh bien, leur attention, en quelque sorte, s'échappe. Leur attention va vers la profondeur de la méditation, va vers l'élévation, va vers une sorte de je dirais, elle se minéralise, la pensée semble comme se minéraliser et rejoindre d'une certaine manière des formes allégoriques plus, nous dirions, classicisantes. Cela veut dire moins entachées d'expression, de singularité de choix et de geste. Ces figures sont en quelque sorte, elles sont comme des médailles, comme des camées, comme des... Vous voyez, elles apportent ce caractère quelquefois impalpable. Il est nécessaire à un moment donné à la chair de s'abstraire aussi, tandis que la pensée s'est abstraite. Tandis que dans ces grandes figures masculines, d'hommes sans âge, eh bien là, au contraire, la chair a une présence tout à fait manifeste.
À cet égard, d'ailleurs, peut-être est-ce le paradoxe de ces tableaux, c'est que, en tout cas, peut-être notre perception aussi contemporaine nous amènerait à penser que la pensée émane d'un individu, d'un sujet. Alors que finalement, les tableaux que nous voyons sont plutôt paradigmatiques de la pensée publique.
Oui, c'est tout à fait ça. La pensée, c'est un lieu. C'est à la fois un lieu et un temps. Avant d'être un individu, une psychologie, et c'est en même temps un lieu, un temps et aussi une culture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette culture est formidablement plurielle. Cette culture associe l'humilité, la pauvreté, la grandeur héroïque, la vertu. Elle est d'une étonnante richesse sémantique, mais sans pour autant émaner d'une personnalité au sens moderne du terme. La pensée, c'est aussi la persona, c'est le masque, c'est le rôle que l'on adopte pour pouvoir être. Déjà, du point de vue de la manière, ce qui est annoncé est extraordinaire. Je disais à quel point l'autoportrait de Salvatore Rosa peut annoncer de la croix. Vous pouvez voir comment ces peintres d'Utrecht, certains annoncent la bande dessinée dans une manière de rendre très angulaire le propos. Ils travaillent le détail. Démocrite, et c'est une sorte de dénonciateur rigolard, comme ça, hein. Le champ de la pensée disparaît dans ce cadre-là. Et puis, Héraclite se tordant les mains et le visage, se devient une sorte de fissure, presque une charge, une caricature. Bon. Et avec une angulation très précise, où la figure devient objet, par cette emblématisation à la fois de l'expression et des attributs, et bien la figure devient comme un objet. Et puis après, vous voyez au contraire, comme dans la tradition vénitienne que j'évoquais, la figure est tout et absorbe les objets, et les objets sont comme un peu de la chair, un peu de cette même chair dont est faite la figure. Donc je crois que toutes les modernités sont en gestation dans ce type de projet et d'image.
Era. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a escuras y segura por la secreta escala disfrazada, o dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado.